Excusez que celle-ci ne commence qu'au mois d'octobre, mais pour des raisons professionnelles, je n'étais pas disponible au mois de septembre. Voilà. Bien. Mais ce n'est que partie remise. Alors, le sujet que nous allons ensemble élucider, questionner, traiter, est peut-être un paradoxe. N'y a-t-il de permanent que l'impermanence ? C'est au sens d'ailleurs dénoté, vraiment au sens du dictionnaire, c'est un paradoxe, puisque la question suppose ce qui serait permanent, oui Gilles ?
Impermanent n'est même pas dans le dictionnaire, n'est pas.
Oui, tout non. à fait.
En deux mots.
Tout à fait, ce n'est dans aucun dictionnaire. Bien, nous prenons donc comme analogie, j'allais y venir, mais merci Gilles de cette intervention. Eh oui, tout à fait. Bien, donc il n'y aurait de permanent, il va falloir bien entendu questionner ce qui est permanent. Faut-il l'entendre comme immuable ? Faut-il l'entendre comme ce qui est toujours là ? Nous voyons tout de suite que cette question, nous ne pouvons éluder de le concept du temps. Bien sûr, l'un des concepts dits les plus difficiles en philosophie, c'est un du temps. Mais du moins, ça pose de manière claire et nette la question du temps. Et de manière, je dirais, complexe. Qu'est-ce qu'il y a de temporel dans ce qui est permanent ? Quelle corrélation faire entre ce qui relève du temps et ce qui relève de la permanence ? Et l'impermanence, donc disons comme Gilles, ce serait un néologisme, bien, puisqu'effectivement, après vérification dans divers dictionnaires, alors je ne parle pas de dictionnaires anciens dont j'ai toujours le plaisir de consulter, voire de m'y délecter, mais même, je dirais, des dictionnaires récents, ou encore le Grand Robert, ou l'histoire de la langue française du Robert, qui est quand même l'ouvrage de référence pour avoir une approche généalogique du lexique de la langue française, nous ne trouvons pas impermanent. Et pourtant, ce terme s'emploie, il est dans l'usage, même d'un usage assez fréquent, et il n'est pas recensé comme tel. Alors, faut-il l'entendre comme un néologisme ? Faut-il derrière y entendre lui un mot, un terme qui a toute sa fortune depuis un écrivain et pas n'importe lequel ? Marcel Proust, bien sûr, les intermittences, pas seulement du cœur, parce que tout est intermittence dans la recherche, et on peut d'ailleurs même se demander si au fond, le but ultime de la recherche ce n'est pas de trouver ce qu'il y aurait de permanent entre toutes ces intermittences ou l'espace laissé entre ces différents moments d'intensité, dit justement intermittence. Retrouver le temps, d'où le dernier volume de la recherche. Alors, quelques pistes que je vous propose, que je nous propose pour essayer, disons, de ne pas nous perdre, de ne pas nous égarer dans cet espace temps, si je puis. Alors, la première, permanent, ce qui est permanent, donc, faut-il comprendre ce qui est immuable, ce qui ne serait altéré, donc un changement, ce qui toujours demeure, ce qui est de l'ordre d'un toujours. Nous voyons bien que nous sommes dans le temps, et nous sommes peut-être à la fois dans le temps et dans la question de l'être, autrement dit de l'ontologie. Donc, première approche possible ce soir, c'est de porter un regard métaphysique sur cette question. Ce n'est d'ailleurs pas le seul, sachant que sa formulation est des plus ouvertes, et qu'elle peut d'ailleurs aussi bien avoir trait à, je dirais, les questions de l'existence, à l'esthétique, voire d'ailleurs aux politiques. Mais il est bien d'essayer de trouver le dénominateur commun de tous ces champs d'investigation, peut-être par la métaphysique. Alors, ce qui serait permanent, faut-il l'entendre ? Ce qui serait toujours, donc, intemporel, alors intemporel, éternel, on voit que c'est quand même une question de vocabulaire, de sémantique ce soir. Alors, sans vouloir passer par principe par le grec, peut-être que la langue grecque va nous être un petit peu utile ce soir. En effet, les Grecs distinguaient, n'avaient pas le concept de temps, comme nous, nous avons, qui nous vient du latin et qui est un concept, je dirais, assez énorme. Ils distinguaient trois choses, dont deux, me semble-t-il, vont peut-être particulièrement retenir notre attention. D'une part, le fameux chronos qu'il nous a donné, chronologie, chronomètre, etc. Chronos, lequel d'ailleurs est un dieu personnifié sous ce dieu qui dévore ses enfants. Chronos, c'est le temps. Le temps chronologique, le temps que l'on mesure, le temps qui dévore, ce temps qui passe et qui ne revient pas, par conséquent que l'on peut mesurer, qui peut être d'ailleurs périodique, cyclique, le temps peut être même dans tout ce qui nous inquiète, dans toute sa cruauté, il s'agit bien de dévoration dans le mythe, chronos. Et puis... ils ont un autre terme, ils avaient un autre terme, qui n'existe d'ailleurs pas en grec contemporain, très difficile à traduire, mais c'est là ce qui est passionnant, ce qui pique la réflexion. Aion, l'aion. Alors, l'aion, A-I-O-N avec l'accent grec, l'aion, c'est au départ, ça se trouve chez Homère, c'est le fluide vital, c'est tout ce qui, je dirais, atteste d'une vie, tout ce qui est fluide, toutes les humeurs, le souffle également. Donc les héros ont un aïon et parfois ils le perdent d'ailleurs quand ils expirent. Et puis de ce fluide vital, on va passer à la vie comme durée, ou à la durée en sens qu'elle renvoie à la vie. Et puis, ça va trouver encore un autre sens chez Platon dans le Timée, puisque ce dernier va soutenir que le démiurge, est un vivant éternel, par conséquent un aïon, un vivant qui a de l'aïon. Voilà ce qui serait le démiurge, c'est-à-dire celui qui serait éternellement vivant. Alors là, et d'où la célèbre définition de Platon, le temps n'est qu'une image mobile de l'immobilité que l'on traduit par éternité, notion latine, mais que l'on pourrait traduire par un aïon des dieux. Au fond, la vie divine est une image de quelque chose qui serait d'une vie divine qui ne passe pas, qui serait toujours dans son intensité. Donc, nous pourrions penser, ce qui est permanent serait de l'ordre, peut-être de cet aïon, c'est-à-dire de cette vie qui constamment se reprend, se ressaisit, se perpétue. Et là, nous avons encore une difficulté. Nous serions quelque part dans ce que l'on appelle l'éternité. Il y a bien le concept d'éternité qui vient. Mais l'éternité, que faut-il entendre ? Souvent, vous avez dû le lire ou l'entendre, des personnes qui peut-être se rassurent, je ne sais pas, disent « Oh, finalement, si nous avions une vie éternelle, qu'est-ce que ce serait ennuyeux ? Il ne se passerait plus rien. » Au fond, espérons qu'il n'y ait pas d'éternité qui nous attende d'aucune sorte. Bien, peut-être pourrait-on objecter à ces personnes, nonobstant toute considération, je dirais, sur un au-delà quelconque ou sur une vie éternelle, que peut-être elles confondent ce qui est éternel et ce qui est sempiternel. Alors, cette distinction subtil nous vient d'un autre philosophe, cette fois lui un latin de la fin tardive de l'Empire, un extraordinaire philosophe qui a prouvé que la pensée n'était pas seulement des mots, mais également une attitude de la vie, puisque l'œuvre sur laquelle je vais m'appuyer, il l'a écrite en prison entre deux séances de torture, il finira d'ailleurs exécuté, c'est bien entendu Boès, qui est l'un des grands, qui va irriguer, je dirais, toute la pensée médiévale, et peut-être d'ailleurs à la fois toute la pensée du souci de soi, et en même temps ce qui va servir de fondement à toute la métaphysique médiévale et au-delà. Et sa distinction qui est dans la consolation de la philosophie, puisque la philosophie personnifiée sous les traits d'une jeune dame, vient, je dirais, le consoler de ses tourments, de son supplice. Et bien sûr, comment tenir face à l'adversité, comment tenir face à la torture ? Eh bien, c'est en s'appuyant, lui dit-elle, sur le roc de la pensée et du concept, et bien sûr sur une idée du temps et une idée de l'éternité quelque part. Et c'est là que Boès distingue très subtilement l'éternité de ce qui est sempiternel, aeternitas sempiternitas. Alors, de quoi s'agit-il ? Il connaissait le grec, bien sûr, et il reprend la notion d'ailleurs. Le sempiternel serait ce qui est toujours. En deux mots, une durée illimitée, extensive. Et il s'appuie d'ailleurs sur la métaphysique d'Aristote qui pose que l'univers est peut-être de toute éternité, ce qui veut dire sempiternel. Et on comprend d'ailleurs que les scolastiques et les théologiens médiévaux, dont l'un des grands penseurs du temps, saint Thomas d'Aquin, reprendra cette distinction. D'ailleurs, c'est assez étonnant que saint Thomas d'Aquin s'appuie sur Aristote, alors que Aristote pose quelque part qu'il est fort probable que l'univers soit de toute éternité. Donc, dirait-on, pas de création. Mais, très subtilement, Thomas d'Aquin a lu Boès, et l'univers pourrait être sempiternel, il ne serait pas pour autant éternel. Subtilité de distinction. Donc, le sempiternel, semper en latin, toujours, c'est ce qui est toujours, mais dans une temporalité indéfinie, limitée, extensive. On pourrait ainsi entendre un permanent. Et puis, l'éternel, l'éternité, c'est donc la récupération de la notion grecque du aion. C'est ce qui, dans la vie, est le plus intense, et Boès le définit, ce qui, dans la vie, a la totalité d'une plénitude dans l'instant. Autrement dit, ce qui ramasse et récapitule l'acmé d'une existence présente, passé, futur. On comprend bien que l'éternité, c'est la plénitude de l'être. Et là, nous sommes en pleine ontologie, en pleine question de l'être. Par conséquent, ce qui a l'éternité, effectivement, c'est Dieu, en tant qu'il est vivant, mais on peut peut-être accéder à une forme d'éternité. D'ailleurs, quelles que soient ses convictions religieuses, et les philosophes en débattent encore, quand Spinoza, dans l'éthique, écrira que parfois nous nous sentons immortels, c'est de cette éternité d'intensité de vie par la pensée, car chez Spinoza, bien entendu, pensée et vie coïncident, mais d'ailleurs bien avant lui, exactement chez Boès, c'est la même définition, c'est de cette éternité-là dont il est question, et de cette immortalité, en tant d'une éternité qui serait d'arriver à un point de perfection d'une existence. Sans pour autant qu'il y ait peut-être de transcendant chez Spinoza, mais c'est une autre question. Donc on voit bien que si on entend par permanent ce qui ne passerait pas, on peut à la fois le questionner comme éternité pris dans le sens d'une plénitude et indépendamment, je dirais, de tout au-delà, et comme ce qui serait sempiternel d'un toujours dans un temps d'une extensive. Et là, on pourrait comprendre certaines personnes qui redouteraient une éternité de crainte de s'ennuyer, car que fait-on dans le toujours ? Alors que si nous sommes dans l'intensité de cette plénitude, il n'y a aucun ennui, voire le paradis de Dante, qui n'est que moment de jouissance, de jubilation, de luminosité, etc., véritable chorégraphie de l'être. Deuxième approche, effectivement, la question de l'être, la question origine de la métaphysique. Et là, pour aller très vite, on a effectivement deux colonnes, ça tombe bien, il y a deux colonnes ici. On pourrait leur donner deux noms, mais bien entendu, c'est un peu caricaturé, c'était très sommaire, Parménide d'un côté, Hératique de l'autre. Rassurez-vous, il n'y a pas de catch en philosophie, donc ce n'est pas Parménide contre Hératique, ça n'aurait bien entendu aucun sens. Parménide, les deux, pour le dire très vite, ont écrit un texte de la nature, physis en grec, périphysis, l'un sous forme d'un poème, l'autre on pourrait dire sous forme d'aphorisme. Il faut savoir que ce sont des fragments qui nous sont parvenus et de l'un et de l'autre, et des fragments cités par différents auteurs grecs et latins. Si bien que vous n'avez aucun texte directement de Parménide et d'Héraclite. On oublie de le dire, mais c'est rapporté par différents auteurs, Platon, Aristote et bien d'autres. Et par exemple, ce fameux aphorisme d'Héraclite, dit l'obscur, parce qu'effectivement, ces sentences peuvent être interprétées de diverses façons. Il joue considérablement sur la polysémie du grec. Cette fameuse sentence, l'homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tant de fois cité, eh bien, se trouve par exemple chez Plutarque. Plutarque rapporte qu'Héraclite a écrit, a dit, disent les Grecs, l'homme ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on reconstitue du Héraclite, ou qu'on reconstitue du Parménide. Juste une petite parenthèse, pour quand même savoir quand on dit qu'Héraclite a écrit ou Parménide a écrit, de recontextualiser. Alors, qu'est-ce qu'on lui a fait pas dire à Héraclite ? Effectivement, qui serait le penseur du mouvement, qui serait le penseur de tout ce qui bouge, et donc d'un impermanent. Il est également l'auteur d'une autre phrase, « Le temps est un enfant qui joue au tric-trac », certains traduisent par « qui joue au dé », « royauté d'un enfant ». C'est très lapidaire, très découpé. Mais là aussi, si on le dit en français ou en latin, le temps, et souvent on le traduit par chronos. Et non, pas de chance. Héraclite emploie aion. C'est aion dont il est question, c'est pas chronos. Par conséquent, est-ce que ça veut dire ce qui est durée de vie est comme un enfant qui joue, ou qu'est la royauté d'un enfant ? De quoi s'agit-il exactement ? Mais bref, Héraclite est du côté, effectivement, serait un penseur du mouvement, mais peut-être ne pas oublier qu'il est tout autant un penseur des contraires et du conflit, le fameux polémos, puisque Héraclite dit que la paix et la guerre se pensent ensemble, que l'être et le non-être et le logos et le non-logos se pensent ensemble, si bien qu'il est penseur des contraires, et que peut-être l'impermanent chez lui ne sont que les contraires dispersés. Quant à Parménide, eh bien, ce fameux poème où, emporté par des cavales, il va jusqu'aux portes du soleil, escorté de jeunes filles qui, en fait, sont des allégories de ce qui conduit à l'esprit. Et là, il y a une immense porte encore avec deux colonnes, le jour ou la nuit. Et bien entendu, Parménide va être visité par une déesse, Dike ou Thémis, qui va lui dire qu'il n'y a qu'une seule chose sur laquelle s'appuyer, c'est l'être. Et l'être, bien entendu, lequel est immuable, lequel ne se divise pas, lequel ne peut pas se dire de plusieurs façons, etc., etc. Bref, lequel même ne peut à peine se dire. Bien entendu, Parménide fera tout l'objet d'un commentaire, et c'est la théorie de l'être et de l'un qui va occuper toute la philosophie pendant des siècles et des siècles. Parménide, Héraclite. Mais de la métaphysique, on peut penser aux politiques. Et d'ailleurs, je pense à l'instant à un ouvrage d'un essayiste contemporain, un penseur contemporain, peut-être que certains d'entre vous l'ont-ils lu, Vincent Céspedes. Et lors, en 2008, des commémorations d'un fameux printemps de 68, cet auteur a publié un ouvrage, mais 68, bon. Mais où ce qui est intéressant, c'est qu'il convoque Parménide et Héraclite. Et bien entendu, il fait tenir à Parménide un peu, on ne va pas dire le rôle d'un méchant, mais du moins d'une pensée un peu contraignante, laquelle serait la pensée d'un nain immobile. Et bien entendu, Héraclite, auquel il prête des vertus révolutionnaires, constamment dans un perpétuel mouvement. Rien ne dit d'ailleurs qu'Héraclite ait été d'une quelconque façon révolutionnaire, mais il est possible que Céspedes se soit souvenu d'un très beau texte de Georges Bataille, qu'il ne mentionne pas, sur Héraclite, effectivement. Que serait une vie en perpétuel mouvement ? Or, troisième voie peut-être pour raccorder nos contraires, et on ne s'éloigne pas d'Héraclite. Que pourrait vouloir dire « il n'y a de permanent que l'impermanence » ? Autrement dit, ce qui serait de l'ordre de ce qui ne passe pas, d'un immuable, peut-être de cette plénitude de l'existence, pour rester également dans l'existentiel, ne se manifesterait qu'à travers des intermittences. On peut le comprendre comme cela. si bien que nous serions dans ce que l'on appelle l'opposition des contraires. En fait, nous dit le sujet, est-ce que je ne peux saisir ce qui ne passe pas, ce qui est immuable, ce qui serait de toute éternité et pas forcément pris dans le sens de l'ennuyeux sempiternel, mais dans cette éternité, quelle que soit cette éternité, après tout, Proust pose qu'il y a une éternité, il ne pose pas nécessairement que celle-ci soit comme Dante l'envisage, même si chez Proust on a un enfer, même si chez Proust on a d'ailleurs un purgatoire à bien le lire et qu'on a un paradis. Mais le paradis, c'est peut-être la saveur d'une madeleine trempée dans du tilleul qui nous permet de nous remémorer un passé à jamais enfoui. L'enfer, c'est peut-être effectivement des propos vains tenus dans un salon et d'une certaine Madame Verdurin. Si l'enfer, c'est effectivement ce qui m'éloigne de moi, ce qui fait que je suis en inadéquation dans des paroles vaines à la surface, d'où la critique de la mondanité chez Proust. Et peut-être ce qui serait de l'ordre d'un purgatoire serait cette prise de conscience douloureuse, voire par exemple quand le narrateur prend conscience un an après que sa grand-mère est morte. Bien entendu qu'il sait que sa grand-mère est morte. Mais entre savoir et l'éprouver, il n'en prend véritablement conscience quand, au fameux hôtel de Balbec, en fait le grand hôtel à Cabourg, en se déchaussant, l'ôtant ses bottines, il revoit sa grand-mère quand il était enfant, l'aidant à chausser ses bottines. Et là, il y a effectivement, non seulement de l'ordre de l'émotionnel, mais il y a une trouée quelque part du temps. De même, quand les pavés dénivelés lui rappelleront Venise, où là, à la fin de la recherche, il y a justement ce temps retrouvé. Alors, ce n'est pas pour mentionner Proust, parce que justement, c'est l'année du centenaire de la publication de Swann, mais c'est que peut-être, quelque part, ce sujet peut avoir une tonalité proustienne, dans la mesure où cette œuvre considérable, est-il besoin d'insister, pose la question, d'ailleurs, d'un permanent qui ne se manifeste que dans un impermanent. C'est-à-dire, quels sont ces moments d'acmé d'une existence? Quels sont ces espaces, ces intervalles d'oubli? Car c'est bien ça le concept d'intermittence. C'est posé qu'il y aurait des intervalles. Et quel est ce fil conducteur de nos vies, de nos pensées, ou peut-être même, si l'on veut être sur un plan politique, d'un projet d'une communauté quelle qu'elle soit, pourquoi pas d'une nation? Bref, quels sont les intermittents? Après tout, et j'en conclurai là, quand le général de Gaulle pose la question de la légitimité face à une légalité qu'il conteste, non pas au nom de sa légalité, c'est constitutionnellement légal, mais au nom d'une légitimité. De quoi s'agit-il si ce n'est qu'il n'y aurait pas posé une permanence dans un pays? Et qu'est-ce que c'est que le concept de légitimité? Et ce concept de légitimité, d'ailleurs, qui était oublié politiquement, qui était resté quelque part avec les légitimistes et qui n'était plus employé depuis la fin de la Restauration. Il est intéressant qu'il soit ressurgi chez De Gaulle et ensuite qu'il soit réintégré dans la pensée politique et légitime, ce qui justement releverait d'un permanent quelque part, d'un aïeul, pourrait-on dire si on employait un terme grec, de ce qui serait fondamentalement l'esprit d'une communauté ou d'un peuple. Indépendamment, je dirais, de ces accidents, combien même cela serait-il légaux. Donc on voit bien que pour aussi traduire sur un plan politique la question, quand on pose d'une légitimité, on pose quelque part qu'il y a une permanence indépendamment des intervalles de cette légitimité. Et justement, la légitimité est au-delà de la loi, au regard de ceux qui considèrent qu'ils portent une légitimité. C'était celle, effectivement, qui estimait que seuls sont légitimes les princes, combien même il y aurait un intervalle long de leur absence, ou le général, ou par exemple chez De Gaulle, posant une légitimité indépendamment de tout prince, mais supposant au moins que le prince est un certain esprit de la nation, indépendamment des lois transitoires, puisque le légitime n'est pas le légal, et que le légitime peut s'opposer parfois à ce qui est légal. Donc on voit bien ici, Ou alors, si c'est de lois dont il est question, ce sont des lois plus ontologiques et non des lois juridiques. Bref, voilà ce que pose, somme toute, une question énorme, puisqu'à la fois elle balaye la question du temps et de la métaphysique, et pose aussi, l'air de rien, la question même du politique. Esthétique, pourquoi pas. Bref. Mais Héraclite et Parménide peuvent être aussi dans le politique. Voilà.